Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une idée qui est vraiment partout en ce moment, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou du développement personnel, l'état d'esprit de croissance.
Le fameux growth mindset.
Exactement. Pour ça, on a analysé une série de modules d'un cours en ligne qui promet de nous aider à développer cette compétence.
D'accord.
Notre but, c'est de comprendre ce qui se cache vraiment derrière ce terme, voir en quoi il s'oppose à son contraire, l'état d'esprit fixe, et surtout trouver des outils concrets.
Des choses qu'on peut appliquer.
Voilà. Et pour commencer, les sources donnent une image très parlante. Imaginez deux employés. Même poste, même manager, ils reçoivent tous les deux une critique constructive.
Le cas classique.
Le premier se renferme, il le prend personnellement, et sa performance chute. Le second, lui, remercie pour le retour, il analyse et ajuste sa méthode, et quelques mois plus tard, il décroche une promotion.
Et la seule différence, c'est ça, l'état d'esprit.
C'est ça.
C'est un exemple parfait parce qu'il montre que ce n'est pas une question de compétence à un instant T. La différence, elle est plus profonde. C'est une croyance fondamentale sur soi-même.
D'accord.
D'un côté, il y a ceux qui pensent que l'intelligence, les talents, c'est inné, c'est figé, c'est l'état d'esprit fixe.
On est avec et puis c'est tout.
Voilà. Et de l'autre, il y a ceux qui sont convaincus que tout ça, ça peut se travailler, se développer avec de l'effort, de la pratique. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas juste une méthode couée, quoi.
Ah non.
Non, c'est ancré dans la biologie. Les sources nous rappellent que notre cerveau, ce n'est pas un disque dur qui se remplit. Il est malléable. Chaque effort, chaque apprentissage crée littéralement de nouvelles routes neuronales.
La fameuse neuroplasticité.
Exactement. Donc cette idée d'état d'esprit de croissance, ce n'est pas une philosophie, c'est juste un mode d'emploi pour notre propre cerveau.
C'est une perspective complètement différente. Donc si je comprends bien, ce n'est pas juste de la pensée positive. Ce n'est pas se répéter « je suis la meilleure devant le miroir ».
Pas du tout. Non. La pensée positive peut même être contre-productive parfois. L'état d'esprit de croissance, c'est plus honnête. C'est se dire « ok, je ne suis pas encore bonne à ça, mais j'ai la capacité de le devenir ».
Je vois.
L'état d'esprit fixe, lui, est enfermé dans le jugement. Chaque tâche, c'est un test. Suis-je intelligente ou stupide? C'est épuisant.
Et ça peut être paralysant, j'imagine. D'ailleurs, la formatrice citée dans nos sources, Jennifer Nash, a une phrase choc là-dessus.
Ah oui.
Elle dit que pour un entrepreneur, un état d'esprit fixe est la voie la plus directe vers l'échec. C'est radical.
C'est radical, mais c'est juste.
Elle prend l'exemple des entreprises qui sont restées figées pendant la crise du Covid et qui ont fait faillite.
Oui, et c'est logique. Parce que l'échec est inévitable, que ce soit en entrepreneuriat ou n'importe où. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est un verdict, un tampon, incompétent sur notre front, ça c'est la vision fixe? Ou est-ce que c'est juste une information qui dit « cette approche n'a pas marché, essaye autre chose ».
Tout se joue là, en fait.
C'est ça. C'est comme si on changeait de lunettes. Au lieu de regarder le monde en se demandant « qu'est-ce que je ne peux pas faire ?», on se demande « qu'est-ce qui devient possible si j'apprends ?».
Et quand on adopte cette mentalité, les sources montrent que ça change tout. Pas seulement dans la tête, mais dans les actions. Le premier effet, c'est qu'on commence à voir des opportunités là où avant on voyait des murs.
Tout à fait.
Face à un nouveau défi, comme prendre la tête d'une nouvelle équipe, l'attention se porte sur ce qui peut bien se passer, sur le potentiel.
C'est un moteur qui pousse à viser plus haut. Et ça, c'est la deuxième grande transformation.
Ah oui.
Il y a une distinction très éclairante dans le cours. Les personnes avec un état d'esprit fixe passent leur temps à essayer de prouver qu'elles sont intelligentes.
C'est une posture défensive.
Exactement. Chaque présentation, chaque rapport, c'est pour valider un statut. À l'inverse, ceux avec un état d'esprit de croissance se concentrent sur le fait de devenir plus intelligent. L'énergie est investie dans l'apprentissage.
Ça change tout au quotidien. On a tous vu ça. Un problème inattendu survient. L'employé fixe va peut-être penser « Oula, c'est pas dans ma fiche de poste. Je ne suis pas qualifié pour ça. J'attends. »
Exactement. Il y a une forme de déresponsabilisation, alors que son collègue croissance aura le réflexe de se dire « Intéressant, jamais fait ça avant, où est-ce que je peux trouver l'info? Qui peut m'aider ?» Il voit une énigme, pas un mur.
Et c'est cette attitude-là qui est récompensée, évidemment. Ce qui m'amène à la troisième transformation, qui est sans doute la plus vitale aujourd'hui, la flexibilité.
Ah oui.
Le monde du travail change à une vitesse folle. Si on croit que nos compétences sont gravées dans le marbre, chaque changement est une menace. C'est une source de stress immense.
Alors que si on est convaincu de sa capacité d'adaptation, Le changement devient une opportunité, une chance d'apprendre. Et ces personnes, nous dit le cours, traversent les transitions avec beaucoup moins d'anxiété. Elles ne subissent pas, elles surfent sur la vague.
Cette idée de ne pas subir, c'est puissant, mais ça sonne aussi très difficile à mettre en place. J'imagine que beaucoup de gens se disent « c'est bien beau, mais moi je ne suis pas comme ça ». Les sources donnent un mode d'emploi ?
Heureusement oui. Et le premier point est clair. C'est une pratique, un muscle à entraîner, ce n'est pas un interrupteur.
D'accord.
La première étape, c'est de reprendre le contrôle de son propre développement. Arrêter d'attendre que le manager nous propose une formation.
Devenir le PDG de sa propre carrière, en quelque sorte. Concrètement, ça pourrait être de se porter volontaire pour un projet en dehors de ses missions habituelles.
Juste pour voir comment ça fonctionne ailleurs.
Voilà, ou de choisir une tâche, non pas parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle est difficile et qu'on va apprendre. Le cours insiste sur le fait de trouver du plaisir dans le processus lui-même.
Et cette prise d'initiative mène naturellement à la deuxième action. Chercher activement le feedback.
Ah, ça, c'est la partie la plus difficile.
Oui, parce que ça demande d'être vulnérable. C'est oser demander à son chef « Sur ce projet, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ?» C'est dur à entendre, mais c'est une mine d'or.
Il y a un exemple que j'ai trouvé génial dans les sources, celui d'un manager qui, chaque mois, demandait à ses collaborateurs de répondre à deux questions.
Ah oui.
La première, « Qu'ai-je réalisé d'efficace ce mois-ci pour valoriser les succès ?» Et la seconde, « Que puis-je changer pour être un leader plus efficace à l'avenir ?»
C'est excellent. C'est une invitation permanente à l'amélioration. Et ça mène à une troisième idée, assez contre-intuitive. On nous dit toujours d'apprendre de nos échecs.
Oui.
Mais le cours souligne qu'on apprend tout autant, et parfois même mieux, de nos réussites.
Ah, ça c'est intéressant. Mais... Pourquoi ?
Parce que l'échec est souvent teinté d'émotions fortes, la déception, la colère, et ça peut brouiller l'analyse. Un succès, en revanche, génère de la motivation. Analyser une réussite à froid, qu'est-ce qui a fait que ça a marché ? Permet d'identifier des stratégies gagnantes qu'on peut reproduire.
D'accord, je vois. Mais alors, que fait-on quand on se sent vraiment bloqué? Quand cette petite voix de l'état d'esprit fixe nous chuchote, tu n'y arriveras jamais.
La première chose, c'est d'apprendre à reconnaître cette voix, d'identifier les pensées typiques. Je suis nul en maths, je ne saurais jamais parler en public.
Et parfois, c'est plus subtil, comme refuser toute critique.
Exactement. Ce qui veut dire « je suis déjà parfaite ». Il y a l'histoire de Marianne dans le cours, une cliente de la formatrice. Elle n'arrêtait pas d'utiliser des négations. « Je ne peux pas faire ça, je ne ferai pas ça », sans même s'en apercevoir. La première étape a été juste la prise de conscience.
Et une fois qu'on a repéré la pensée,
il faut la défier. Et là, le cours donne une astuce toute simple, mais redoutablement efficace. Il suffit d'ajouter deux mots à la fin de la phrase. Pour l'instant.
Je ne sais pas utiliser ce nouveau logiciel. Pour l'instant.
Je ne comprends rien à ce dossier, pour l'instant.
Ah oui, c'est tout bête, mais ça change complètement la perspective. Ça transforme une condamnation en un état temporaire.
C'est exactement ça. Ça ouvre la porte au changement. Une autre technique, c'est de s'habituer volontairement à un léger inconfort. S'entraîner à petite dose.
Comme par exemple ?
Par exemple, en réunion, si on n'est pas d'accord, s'entraîner à l'exprimer poliment, même si c'est intimidant. En s'exposant à ces petits malaises contrôlés, on augmente sa tolérance à l'incertitude.
Et le dernier conseil pratique, c'est de planifier son apprentissage, de bloquer un créneau dans son agenda, 15 minutes par jour.
Oui, ne pas attendre d'avoir le temps, parce que ça n'arrive jamais. C'est la différence entre un apprentissage passif et un apprentissage intentionnel.
Et toutes ces techniques, au fond, elles construisent une seule et même chose, la résilience. Le lien est très fort dans les documents.
Tout à fait. La résilience, c'est cette capacité à rebondir face au stress. Et c'est une armure qu'on se forge en temps de paix. Pas au milieu de la bataille.
Comment on fait ça concrètement?
Une des clés, c'est d'accepter le changement, de chercher l'opportunité qui s'y cache.
Oui, et une autre technique très pragmatique, c'est la préparation mentale. Face à une situation stressante, le cours suggère de se préparer à trois scénarios, le meilleur, le pire et le plus probable.
Et ça aide?
Ça dédramatise. Une fois qu'on a un plan pour le pire, on est beaucoup plus serein pour viser le meilleur.
La pleine conscience est aussi mentionnée, mais de manière très pratique. Prendre soin de soi, être curieux de ses émotions.
Oui. Au lieu de les rejeter. Et la dernière brique, sans doute la plus importante, la connexion aux autres. Avoir un réseau de soutien solide, ça réduit le stress, c'est prouvé. Ça me fait penser à l'exemple de Wendy, la nouvelle manager. Pour ses premières rencontres avec son équipe, elle ne vient pas les mains dans les poches. Elle prépare chaque entretien, elle va voir le profil LinkedIn de la personne, relit ses évaluations.
Elle ne fait pas ça pour fliquer, mais pour créer un lien authentique dès le départ.
C'est ça.
Et c'est une application parfaite. Il y a la préparation pour réduire son propre stress et la création de liens pour bâtir la résilience de toute l'équipe. En montrant qu'elle s'intéresse à eux, elle instaure un climat de confiance.
Donc, pour résumer notre analyse, l'état d'esprit de croissance, c'est bien plus qu'une idée à la mode. C'est la croyance que nos capacités ne sont pas une fatalité.
Mais un point de départ ?
Cette conviction change notre rapport à l'échec, nous rend plus flexibles, nous permet de viser plus haut. Et pour y arriver, pas de formule magique, mais des actions concrètes. Prendre son développement en main, chercher le feedback et apprendre de chaque expérience.
C'est ça. Et les outils pour y parvenir sont accessibles. Apprendre à reformuler cette petite voix intérieure avec l'astuce du « pour l'instant ». Et en parallèle, construire sa résilience jour après jour, par la préparation, la conscience de soi et surtout en cultivant des relations humaines de qualité.
C'est une excellente synthèse.
Mais ça soulève une dernière question, une réflexion pour la route. Toutes ces sources se concentrent sur ce que l'individu peut faire. Mais que se passe-t-il lorsque le système lui-même est bloqué dans un état d'esprit fixe ?
Tu veux dire la culture d'une entreprise ?
Oui, une culture, un management, des critères de promotion qui ne récompensent que le talent inné, le génie apparent, et qui pénalisent l'erreur.
Comment un état d'esprit de croissance individuelle peut-il survivre dans un environnement qui, fondamentalement, lui dit qu'il a tort ?
Voilà, c'est une question à méditer.